Merci Paul Lonsin Spinelli. À tout à l'heure Paul. 6h43 ici à Paris. On passe au sport. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Nemo.
Du football ce week-end avec la Ligue 1 en France et le retour plein d'émotions de Nabil Bentaleb.
Victime d'un arrêt cardio-respiratoire il y a 8 mois, l'international algérien a refoulé les terrains et même mieux que ça, c'est lui qui ouvre le score contre Rennes en clôture de la 22e journée. Le LOSC s'impose 2-0, garde le rythme des équipes en tête du championnat, mais surtout, les Lillois fêtent comme il se doit le retour d'un Nabil Bentaleb pour qui tout s'est accéléré cette semaine.
C'est un moment assez particulier pour moi. Je passe du tout au rien. Du jour au lendemain, je m'entraîne du jeudi et du vendredi. Bon, maintenant, ce que j'ai potentiellement la capacité d'être dans le groupe. À la dernière minute, je ne sais pas si je vais rentrer. On me dit de rentrer. Mais sur le corner, je savais un peu. Je sentais que j'allais marquer. J'ai bossé très très dur ces derniers mois pour arriver à ce genre de résultat. Et maintenant, bien sûr, on retient ça. Mais le plus important, c'est déjà ma santé. Ma famille, franchement, mon grand frère, ma femme, mes enfants, mes parents, mes sœurs. Franchement, c'est tout ce cercle très rapproché qui m'a permis de tenir pendant ces 8 derniers mois et me donner la possibilité de rêver à revenir un jour sur le terrain de football. Et quelque part, c'est pour eux que je le fais également.
Nabil Bentaleb, chez nos confrères de DAZN.
L'international algérien qui fait partie des 5 buteurs africains de cette 22e journée.
Son compatriote Fares El Melali a confirmé sa bonne forme du moment en marquant le but de la victoire 1-0 pour Angers face à Reims. Ernest Nouama, le Ghanéen de Lyon, participe lui au succès des Gones. 4-1 sur Montpellier. Enfin, le duel marocain tourne en faveur de Sofiane Diop qui conclut le succès de Nice 3-1 sur le Havre. Malgré le but de Yacine Keshta pour le hack.
Du badminton, Antoine, pour refermer ce journal. Clap de fin sur les championnats d'Afrique à Douala.
Avec un constat, l'Afrique subsaharienne est encore à la peine, notamment faute d'infrastructures adaptées, mais avec un espoir aussi, car cette édition organisée au Cameroun a cherché à encourager les efforts de promotion de la discipline, Joël Wadem.
C'est la première fois que les championnats d'Afrique de badminton se tenaient en Afrique centrale. En réussissant le pari de l'organisation, Odette Ngulu Asembe, la présidente de la Fédération camerounaise de badminton, a prouvé que la discipline est en plein essor au pays des Lions Indomptables.
Le badminton existe au Cameroun depuis 1999. Nous sommes partis de la 17e place à la 6e place sur le plan africain. Il y a des open nationaux qui permettent de vulgariser la discipline.
Traditionnellement, c'est dans une salle que se pratique le badminton. Mais compte tenu des difficultés des pays africains à construire des infrastructures, une solution a été trouvée pour mettre cette discipline à la portée de tous. Michel Beau, le président de la Confédération africaine de badminton, en parle.
Nous avons introduit ce qu'on appelle Air Badminton. C'est un sport qui se joue dehors, sur la plage, sur les gazons, n'importe où. L'équipement, c'est vraiment facile à amener. Nous avons fait la première compétition Coupe d'Afrique de Air Badminton qui s'est déroulée en Tunisie et c'était un succès. Avec les Air Badminton, ça permettra aux pays africains d'avoir accès au badminton.
14 pays ont répondu présents au 28e championnat d'Afrique de badminton. Une preuve que la discipline inscrite aux Jeux Olympiques depuis 1992 est en plein essor sur le continent. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Des championnats d'Afrique sans grande surprise au niveau du palmarès, avec les sacres de l'Égyptienne Noramed Yousri et du Nigérian Juan Opeyori en simple, en double. Les équipes algériennes chez les messieurs et sud-africaines chez les dames ont été couronnées.
Merci Antoine Grenier, on vous retrouve dans une demi-heure. On entendra notamment le basketteur français Victor Wembanyama. Cette nuit, c'était le match des étoiles aux États-Unis. Le All-Star Game NBA.
RFI, toute l'actualité, Nemo en piste.
Les grands titres de ce lundi 17 février 2025. Londres se dit prêt à envoyer des soldats sur le territoire ukrainien si nécessaire, selon Keir Starmer. Le Premier ministre britannique qui s'exprimait dans les colonnes du Daily Telegraph alors qu'est prévu aujourd'hui à Paris et à l'initiative du président français Emmanuel Macron. Une réunion pour faire face à l'accélération de l'administration américaine sur le dossier ukrainien et pour définir une réponse commune pour renforcer la sécurité sur le vieux continent. Une demi-douzaine de pays présents ainsi que le président du Conseil européen, la présidente de la Commission européenne et le secrétaire général de l'OTAN. Lui pourrait rencontrer son homologue russe très bientôt. Donald Trump l'a assuré alors que des négociations justement pour mettre fin à la guerre en Ukraine doivent se tenir en Arabie Saoudite. Aucune date n'a en revanche été arrêtée, précise le président américain. Et puis Conclave et The Brutalist à l'honneur au BAFTA, les récompenses britanniques du cinéma. Ils repartent chacun avec 4 trophées alors qu'Emilia Pérez, en pleine polémique, n'en récolte que 2 à maintenant 15 jours. Des Oscars. Tout de suite, l'invité de la rédaction Afrique de RFI. À moins d'un an désormais de la présidentielle en République centrafricaine, elle est prévue en décembre prochain. Parole à un opposant ce matin, Dominique Yandoka, emprisonné tout au long de l'année 2024. Derrière les barreaux, il affirme avoir été empoisonné. Il en est sorti après plusieurs grèves de la faim, mais reste sous le coup d'une condamnation pour délit de complot. Dominique Yandoka, le leader politique du mouvement ITA, Initiative pour la transformation de l'action, était de passage à Paris. Christophe Boisbouvier en a profité pour le recevoir. Entretien.
Dominique Yandoka, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été emprisonné à Bangui pendant un an. Comment s'est passée votre détention ?
J'ai été enlevé le 15 décembre 2023 sur instruction ferme du président de la République, Faustin Archange Touadéra, sans faire mention de mon immunité parlementaire.
Est-ce que vous avez été maltraité pendant votre année de prison ?
Alors, sur le plan physique, non, mais plutôt sur le plan sanitaire. Donc, sur une année, j'ai passé près de 9 mois en fauteuil roulant. Je suis sorti avec des séquelles. J'ai été victime d'un empoisonnement. Le 9 février 2024, j'étais victime d'un malaise. On m'a transféré à l'hôpital militaire. Et le 12 février, j'ai été ramené à la prison manu militari. C'est à ce moment, dans la bousculade, qu'on m'a fait assimiler un produit que j'ignore la provenance. Et ça m'a valu 36 heures de coma. Il a fallu qu'on m'administre d'autres remèdes. Et c'est ça qui m'a fait vomir plusieurs fois et j'ai repris connaissance.
Et vous avez fait une grève de la faim ?
J'ai fait 3 grèves de la faim pour protester contre le non-prise en charge de mon état de santé et aussi protester contre mon arrestation. Parce que tout ça a été l'instrument d'une machination orchestrée de toutes pièces depuis la présidence de la République.
Pourquoi avez-vous été arrêté à votre avis ?
Tout simplement parce que le pouvoir me redoute. Donc ils ont tout fait pour que je sois arrêté, que mon casier judiciaire soit sali, pour que je devienne inéligible à toutes les élections.
Oui, mais vous n'êtes pas le seul opposant en République centrafricaine.
Vous savez, je suis d'accord avec vous que je ne suis pas le seul opposant, mais en attendant, je suis de l'opposition et je suis député de 4e arrondissement.
De Bangui ?
De Bangui, bien sûr. Et les gens redoutent que je puisse pousser la barre un peu plus haute.
Alors, au bout d'un an de prison, vous avez été condamné à précisément un an de prison, ce qui vous a permis de sortir juste après Noël. Votre libération, Dominique Yandoka, est-ce que c'est la preuve que la justice n'est pas aux ordres du pouvoir politique ou qu'au contraire, c'est à la suite d'une décision politique ?
Je salue ici le courage de certains magistrats qui ne défèrent pas devant la pression politique, mais qui ont voulu trouver un arrangement pour que ni moi que j'écope encore d'autres peines d'emprisonnement supplémentaires, ils ont jugé utile de trouver le juste milieu pour me faire sortir au bout d'un an et 11 jours. Que je salue d'abord leur bravoure, malgré la pression politique qui était sur eux, mais ils ont su quand même faire un jugement à la Salomon.
Un jugement à la Salomon, dites-vous. Suite à cette condamnation, vous êtes aujourd'hui libre, mais sous le coup de ce jugement, et vous continuez à clamer votre innocence. Qu'est-ce que vous allez faire ?
Mes conseils ont fait pourvoir en cassation, et tant que la Cour de cassation ne se prononce pas, je reste et je demeure dans tous mes droits.
Alors cela dit, Dominique Yandoka, vous êtes binational, à la fois de nationalité centrafricaine et française, et du coup, a priori, vous n'êtes pas éligible à la présidentielle de décembre prochain. Est-ce que vous pensez quand même à cette élection ?
Vous savez, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Je suis député de la nation, je me concentre sur mon mandat aujourd'hui en tant que député de la nation. Le jour viendra où le peuple centrafricain me fera confiance et voudrait que je pousse un peu la barre plus haute, je le ferai. Et je suis prêt aujourd'hui à contribuer qu'il y ait une vraie alternance dans notre pays.
En juillet 2023, vous avez appelé au boycott du référendum sur la nouvelle constitution, notamment parce qu'elle permet aujourd'hui au président Touadéra de se présenter à un troisième mandat. Du coup, est-ce que vous allez appeler au boycott de la présidentielle du mois de décembre prochain ?
En 2023, j'ai bien appelé à boycotter le référendum constitutionnel, tout simplement parce qu'il y avait des dispositions qui me semblent discriminatoires. Par exemple, toute personne qui détient la double nationalité ne peut plus prétendre à la magistrature suprême ou à diriger les hautes fonctions de la République. Et ça a été fait à dessein, parce que le président Touadéra n'accepte pas qu'il y ait de la concurrence.
C'est une disposition qui écarte de fait Anissé Georges Dologuélé, Crépin Boligoumba et vous-même.
Oui, mais notre pays sort de très très loin. et nous n'allons pas nous permettre encore qu'il y ait une autre division pour assouvir le besoin d'un seul clan ou d'un seul homme. C'est pour cette raison que je crois formellement qu'il va y avoir l'ouverture d'un dialogue pour que nous puissions discuter sur des points de divergence par rapport à cette constitution et donner la chance à tous les Centrafricains d'aller compétir.
Dominique Yandoka, merci.
Entretien entre Dominique Yandoka et Christophe Boisbouvier à retrouver en intégralité sur notre site internet RFI.fr et sur l'application RFI Pure Radio. Le cacao, au cœur de la chronique des matières premières de ce lundi. Si on savait que les stocks mondiaux étaient tombés à moins de 3 mois de consommation, eh bien, on apprend ce début de semaine qu'une partie de ces stocks, à savoir ceux qui sont détenus dans les entrepôts rattachés aux bourses de New York et de Londres, sont particulièrement bas. Marie-Pierre Olfant, c'est le signe d'une tension toujours particulièrement forte dans ce secteur.
Dans les entrepôts européens rattachés à la Bourse de Londres, les stocks avoisinent 21 000 tonnes de fèves contre 100 000 tonnes il y a un an. La baisse est aussi impressionnante dans les entrepôts portuaires affiliés à la Bourse de New York. On parle de niveaux au plus bas depuis 10 ans au moins. Ces stocks boursiers ne représentent environ qu'un dixième de ceux qui sont disséminés sur la planète, mais ils jouent un rôle crucial sur le marché. Ces réserves de cacao sont alimentées par les exportateurs ou les traders qui vendent des fèves qui seront livrées dans 3, 6 ou 9 mois et qui finalement ne trouvent pas de clients. Ces fèves invendues sont alors déposées dans ces entrepôts certifiés qui jouent le rôle de magasin. Les acheteurs, qu'ils soient traders, industriels ou chocolatiers, peuvent y acheter du cacao. L'avantage, c'est que ces fèves sont déjà dans le pays où elles sont transformées et consommées et donc tout de suite disponibles à un prix intéressant, plus intéressant en tout cas que celui proposé en ce moment dans les pays producteurs où la compétition est devenue permanente entre les grands industriels broyeurs de fèves qui cherchent à s'approvisionner. Ce n'est pas pour rien que le géant américain Hershey avait tenté d'acheter il y a un peu plus d'un mois 90 000 tonnes de cacao à la Bourse de New York sans chercher à se fournir à la source en Côte d'Ivoire ou au Ghana par exemple. La baisse des stocks des bourses de Londres et de New York confirme aujourd'hui la tension qui existe sur le marché. Elle entraîne aussi une insécurité plus forte pour tous les acheteurs. Ils n'ont plus cette alternative pour s'approvisionner et combler un éventuel défaut de livraison. Une insécurité qui se traduit dans les prix du cacao qui sont toujours très élevés.
Marie-Pierre Olfant pour la chronique des matières premières. C'est le grand rendez-vous de ce début d'année en Allemagne. Dimanche prochain, les électeurs sont appelés aux urnes pour des législatives jugées cruciales. D'abord parce que le SPD du chancelier Olaf Scholz est en très mauvaise posture face aux conservateurs de la CDU, emmené par Friedrich Merz. Ensuite parce que l'AfD d'extrême droite pourrait réaliser une percée historique. Et parmi les thèmes forts portés par ce dernier, l'immigration bien sûr, mais aussi l'économie, puisque le pays traverse une période de récession avec une industrie en crise. Symbole de son industrie, Volkswagen, l'un de ses leaders, contraint de supprimer 35 000 postes. Alors pour comprendre cette crise et en mesurer l'impact sur ceux qui iront voter, ou pas d'ailleurs, RFI s'est rendu à Wolfsburg, où se trouve le siège et la principale usine du constructeur. Élection législative en Allemagne, la hantise du déclin économique, extrait du grand reportage signé Daniel Valot.
Mon nom est Christine Petersen et je travaille à Volkswagen à la carrosserie. Ça fait 13 ans que je suis ici. Et bien sûr, avec tout ce qui se passe, je suis inquiète. Ça fait 3 générations dans ma famille que nous travaillons pour Volkswagen. Moi, je suis bientôt à la retraite, alors ça va aller. Mais pour les jeunes, c'est différent et c'est très inquiétant.
Il est tout juste 14h, Christine Petersen s'engage dans le souterrain qui mène à l'entrée de l'usine Volkswagen. Il faut marcher plusieurs minutes depuis le parking jusqu'aux escalators qui mènent au portail de l'usine. Et il faut se dépêcher car c'est l'heure de la relève entre l'équipe du matin et celle du soir. Avec sa combinaison bleue et grise déjà sur le dos, Marcus accepte lui aussi de nous parler quelques instants.
Mes parents ont commencé à travailler ici dans les années 50 et 60. Ma fille travaille à l'usine et j'espère que mon fils pourra y travailler aussi. Ici à Wolfsburg, on forme comme une grande famille et il faut qu'on fasse tout pour que Volkswagen sorte de ce mauvais pas. C'est notre intérêt à tous.
Le choc est immense pour les 60 000 employés de l'usine qui a longtemps été la plus grande usine automobile au monde. Mais l'impact se fait sentir bien au-delà, car à Wolfsburg, tout ou presque dépend du constructeur.
Il y a la banque Volkswagen, le musée, le cinéma qui sont financés par Volkswagen, le club de foot, bien sûr, le club de hockey, et puis regardez les noms de rues. Ici, c'est la rue Porsche, là, la rue Diesel, tout est lié à la voiture. Wolfsburg est une ville artificielle, 100% Volkswagen. Et si Volkswagen s'effondre, la ville s'effondre avec elle.
Thorsten Langweilt est informaticien, il est âgé de 52 ans. Et comme tous les habitants de Wolfsburg, il s'inquiète pour l'avenir de la ville.
Si Volkswagen a un problème, alors c'est notre problème, à tous. Si Volkswagen délocalise la production de la Golf au Mexique et qu'on n'a plus que la voiture électrique, alors c'est sûr, il va y avoir de la casse. Avec un enchaînement dévastateur, moins d'emplois, moins d'argent à dépenser, moins de commerce. C'est toute l'infrastructure de la ville qui risque de s'effondrer.
Élection législative en Allemagne, la hantise du déclin économique. Gros reportage à retrouver aujourd'hui sur nos antennes. RFI Matin, nous sommes encore ensemble pour 2 heures. Martin Guez nous rejoint dans une minute pour le retour de l'actualité internationale. Il sera 6 heures, temps universel.
Appelez-nous, exprimez-vous. Chantal Leroux.
Au Sénégal, le nouveau pouvoir accuse le régime sortant d'avoir menti et falsifié les chiffres sur la situation des finances publiques. Suite au rapport édifiant de la Cour des comptes, la justice va ouvrir des enquêtes. Le camp Macky Sall dénonce une machination politique. Qu'en pensez-vous ?
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Ce mercredi, vivez sur RFI la soirée spéciale Ligue des Champions. Cédric De Oliveira.
Objectif 8e de finale, le Real Madrid de Kylian Mbappé retrouve Manchester City une semaine après sa victoire 3-2 en Angleterre. Pep Guardiola et les Sky Blues rêvent de prendre leur revanche. Le PSG tentera lui de confirmer sa large victoire à Brest 3-0. Les barrages retour de la Ligue des Champions, ce sera à vivre en direct et en intégralité ce mercredi sur RFI à partir de 19h40 TU.